Tressange, la stèle du parc. Le monument est élevé à la mémoire de Marc Bonneau, ouvrier coiffeur à Souvigny, qui avait à peine 20 ans quand il a rejoint le maquis Daniel Casanova le 6 juin 1944 en forêt de Moladier avec d'autres garçons de Souvigny, André Quénisset, Henri Daubinet, Roger Dauphin et René Aubert. Après s'être déplacé, le maquis va conduire ses actions à partir de la ferme de Renaudière à Meillard, et son activité est une activité de guérilla. C'est de ce lieu que le maquis lancera la plupart de ses actions, soutenues et ravitaillées par les fermes des environs. L'embuscade du Rocher Noir à Châtillon, le sabotage du tunnel de Cerisier, le périple du 14 juillet auront été autant d'opérations réussies. À Châtillon, l'embuscade du Rocher Noir se soldera par plusieurs véhicules détruits et une vingtaine de morts du côté allemand, sans perte dans le camp du maquis. Au tunnel des Cerisiers, le dernier sabotage avec deux locomotives lancées l'une contre l'autre sous le tunnel avait neutralisé la voie ferrée Montluçon-Moulin jusqu'à la libération. Le périple du 14 juillet. Le 14 juillet 1944, Lucien de Presles reste au camp à la ferme de Renaudière avec Charles Léger, la pipe, et son groupe d'une vingtaine de maquisards, pendant que les autres sont partis sous les ordres de Jean-Louis Hammerlin, avec un camion benne, un petit car offert au maquis par un entrepreneur de Brenay, une traction et quelques autres voitures réquisitionnées. Les arrêts de Treban, Cressange, Châtillon, Souvigny, Besson, Brenay, Châtel-de-Neuve et Meillard sont l'occasion d'un affichage au grand jour des forces de la résistance et d'une mobilisation des populations qui viennent les voir défiler. Ce seront plus de 1000 manifestants qui les accueilleront à Souvigny. Une mission écourtée. Le lendemain, 15 juillet, un groupe de maquisards partait à deux chaises avec le petit car pour arrêter les membres d'un faux maquis qui réquisitionnait de force chez les habitants quand un accrochage se produisit à Chapillière. Alertés par le bruit, deux soldats allemands de garde au carrefour de la Fline s'approchaient en vélo pour voir. Sapin, se faufilant dans le fossé à l'abri de la haie, a abattu un soldat allemand. Et le second s'est échappé et a donné l'alerte. La première attaque. Les résistants rentrent au camp, mais le soir même de ce 15 juillet, le camp est attaqué à la tombée de la nuit. Les résistants sont repoussés au carrefour de Chapillière par les Allemands armés de fusils mitrailleurs et de grenades offensives. Georges Orambou fait se replier le petit groupe qui tentait une sortie. Pris en tenaille, les maquisards devaient évacuer leur camp. C'était une évacuation risquée. Ce fut une errance de cache en cache. Lucien de Presles, connaissant fort bien le terrain, prend le commandement de l'opération. Il conduit la petite cinquantaine de combattants par les sentiers qui lui sont familiers dans le bois. Puis c'est à travers champs et à l'abri des haies qu'ils vont s'éloigner. Traversant la route de Saint-Pourçain avec d'infinies précautions, ils rejoignent les bois de Peuron au milieu de la nuit. Ils vont y rester terrés jusqu'au lendemain soir, avant de repartir pour Besson, dans les bois du château de Bost, où ils arriveront au petit matin du 17 juillet. Les combattants du maquis Casanova avaient déjà passé quelques jours fin juin à proximité du château avec la complicité bienveillante du prince de Bourbon. Les combattants sont assoiffés et affamés. Dans le petit groupe de Lucien, ils n'ont à partager qu'une maigre musette de ravitaillement pour 8. À la Vivère, chez Perriot, 3 ou 4 avaient trouvé un peu de réconfort avec une soupe à l'oignon au petit matin. Mais leur répit sera de courte durée.